France Inter.
Aujourd'hui, sédimentaire, mon cher Watson, la géologie au service des enquêtes racontées par...
Patrick Dehever, géologue, professeur émérite au Muséum National d'Histoire Naturelle.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Après les attentats du 11 septembre 2001, le commanditaire Oussama Ben Laden est sans doute l'homme le plus recherché sur Terre. Il est supposé être caché dans des grottes en Afghanistan. Or, les militaires américains s'intéressent de très près à ce pays, à ses habitants, à ses habitudes et à sa géologie, car les terroristes sont suspectés de s'y cacher et de se déplacer sous terre. Les géosciences sont devenues particulièrement importantes pour les recherches des talibans et des forces d'Al-Qaïda. Alors, les services géologiques des États-Unis estimaient qu'il existait plus de 10 000 grottes naturelles ou creusées artificiellement sur le territoire. Les militaires ont donc besoin de renseignements géologiques sur l'emplacement et les caractéristiques des grottes, ainsi que sur la résistance des entrées de tunnels aux bombes conventionnelles et pénétrantes. La capacité des géologues à analyser, à compiler, à diffuser aux planificateurs militaires les meilleures interprétations des cartes, des images satellites et les propriétés estimées des roches a donc été sollicitée. Ils ont appliqué une grande variété de compétences à distance pour répondre à la question « où ?». Les terroristes se cachent-ils et comment pouvons-nous détecter leur présence? Lorsqu'une vidéo d'Oussama Ben Laden est diffusée à la télévision par les terroristes, le professeur John Schroeder, géologue à l'université du Nebraska aux États-Unis, reconnaît immédiatement les grès blancs devant lesquels Ben Laden est enregistré et permet de les localiser. La cachette n'en est plus une. L'analyse d'un affleurement rocheux, visible uniquement sur bande vidéo, a constitué un défi unique en son genre. La vidéo n'est en effet pas le type de preuve matérielle qu'un géologue légiste choisirait pour contribuer à la sécurité nationale. Cependant, malgré ses limites flagrantes et dans des conditions particulières, elle a fourni des informations utiles pour restreindre les zones de recherche possibles. L'affaire Ben Laden illustre la façon dont la géologie peut être appliquée à la résolution d'une enquête. Et c'est cette histoire, ce sont ces histoires que nous allons vous raconter. Bonjour Patrick Dehever.
Bonjour.
Vous êtes donc géologue et vous publiez avec Richard Marley, qui a dirigé les services de la police judiciaire du Quai des Orfèvres, La géologie au service de l'enquête aux éditions Belin. Alors c'est vrai que tout le monde s'en souvient de cette histoire de Ben Laden avec la grotte, parce que ça avait été très commenté dans le monde entier. Un géologue américain qui prétend avoir trouvé l'endroit, à peu près en tout cas la région où il se trouvait, tout était bon pour retrouver Oussama Ben Laden. Hein, et les roches faisaient partie justement des pistes à explorer.
Oui, et en l'occurrence, ce qui est amusant, c'est que c'est un géologue, mais ça aurait pu être monsieur tout le monde, parce que, en fait, c'est l'approche naturaliste du géologue. Il n'était pas nécessaire qu'il connaisse les cailloux, mais il a reconnu le lieu. Donc c'est simplement le regard naturaliste, parce que les géologues sont d'abord des naturalistes. Ouais. Et on voit que ça peut être très utile.
Est-ce que vous, en 2001, vous vous souvenez de ces images, hein, parce qu'elles ont été vraiment diffusées, est-ce que vous, en tant que géologue à l'époque, vous avez eu le même réflexe que votre confrère américain, ou pas, en
mais
disant,
non, je ne connais pas les lieux, donc ouais. Je n'ai rien reconnu, puisque je ne connais pas. Ouais. Reconnaître.
Mais vous auriez pu.
Oui.
Si vous aviez bien connu cette région.
Il y a beaucoup d'équipes françaises qui travaillent en Afghanistan, parce qu'avant que ce soit un peu troublé, c'est une région très riche du point de vue géologique. Très...
Donc il y avait ces grès de type sédimentaire que l'on ne trouve que dans ces provinces de Pasia et Paquita, en tout cas là, dans cette région, à 200 km au sud-est de Kaboul. Donc ça a donné un indice. Et c'est vrai que c'était bon à prendre, évidemment, pour ceux qui enquêtaient, parce que c'était vraiment l'ennemi fluique numéro un de la Terre entière. Hein.
Oui, parce que quand on fait du terrain, on regarde les cailloux, on lit la roche, mais on se souvient aussi du paysage. Je me souviens, on était en Corse il y a quelques années avec un étudiant, et on avait prélevé des échantillons, on discutait, on n'arrivait plus à se souvenir de la localité précise, ouais. Et à un moment, il me dit, tu sais, c'est là où l'arbre était sur le talus, était penché. Et j'ai dit, ça y est, je vois où c'est.
Ouais.
Comme quoi, mais, voilà, il y a la science, mais il y a aussi l'humain. Et je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait une partie de l'humain.
Vous aviez une carte géologique en tête, donc grâce à ces petits événements. On apprend dans votre livre que le premier laboratoire dédié aux sciences du crime a été fondé en 1910 à Lyon par un certain Edmond Locard, professeur de médecine légale. Et il a été à l'origine du principe d'échange. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire ?
Oui, alors le principe d'échange, c'est que dès que on touche quelque chose, ou que quelque chose nous touche, il y a un échange. On laisse des traces sur l'objet, ou c'est l'objet qui laisse des traces sur nous. Dans le livre, on a cité plusieurs exemples où ils avaient enlevé une dame, ils ont bien fait attention qu'elle ne touche rien, qu'elle ne voit rien, il y avait du plastique partout, et puis en sortant de l'endroit où elle était séquestrée, pour l'emmener, elle a glissé sur une marche, et il ne s'est rien passé. Mais simplement, son épaule a touché à peine le mur. Et ça a suffi à remonter les chevaux, parce que sur ce mur, il y avait un plâtre un peu spécial avec... Alors, c'est du plâtre.
Oui.
Mais tous les plâtres ne sont pas les mêmes, parce qu'en fonction de leur composition initiale, ils ont des petits détails chimiques qui sont un petit peu, c'est ce qu'on appelle des isotopes, qui sont un petit peu différents, ou des éléments traces. Et donc, ça a permis de situer le type de plâtre utilisé, le type d'usine qui construisait, à partir de là, quelle usine avait construit quel ensemble d'immeubles, etc. etc. Ouais.
Et donc ça, c'est un principe donc, qui a été justement imaginé par ce Français, Edmond Locard, et qui est toujours valable, en fait, c'est ce que vous racontez aussi, dans les laboratoires de sciences criminelles, ce principe d'échange. On va juste écouter une petite archive de l'année 1951. C'était le départ à la retraite de ce professeur Edmond Locard.
À Lyon, le professeur Edmond Locard vient de prendre sa retraite après plus de 40 années de lutte quotidienne contre les criminels. Fervent disciple de Bertillon, le professeur Locard contribua grandement à développer ses théories sur l'emploi pratique des empreintes digitales. Ses succès furent innombrables et les vedettes du crime, dont son musée conserve les tragiques souvenirs, se sont inscrites au long d'un palmarès étonnant qui réunit les noms les plus célèbres. La carrière du professeur Locard restera attachée à cette science extraordinaire et trop utile, hélas, la criminologie.
Patrick de Wever, commentaire sur cette archive, je voulais y réagir.
Oui, mais c'est impressionnant, je ne connaissais pas cette archive. Ce qui m'avait impressionné, c'est que c'est un monsieur qui était convaincu, un professeur, qui était convaincu de sa science, et il a réussi à avoir un tout petit local, à coller dans une petite rue à côté du palais de justice. Enfin, il avait son labo, en fait, c'était un microscope binoculaire, et il avait un technicien pour l'aider un peu. Au début, ce n'était que ça, et ça a été très longtemps, presque toute sa vie, ça. Mais, bon, voilà, c'est un bébé qui maintenant a donné la criminalistique.
Voilà, il a donc inspiré cette science. Alors, on appelle ça comment ? La géoforensique, c'est ça ?
La géoforensique, oui.
C'est quoi, ça ?
Géo, c'est la Terre. Et forensique, ça ne s'utilise pas beaucoup en français, mais les anglo-saxons l'utilisent beaucoup. C'est les indicateurs que sont donnés par la géologie. Il peut y avoir la bioforensique. Donc, on l'utilise surtout en anglais. Au début, je pensais justement appeler le livre géoforensique et on m'a dit, ça sera du chinois, personne ne va savoir ce que
je pense. Je pense que votre éditeur a une bonne idée quand même de vous emmener sur un autre titre, la géologie au service de l'enquête. Là, au moins, on peut comprendre aisément. Patrick de Wever, vous êtes amené, vous, régulièrement à travailler sur des enquêtes ou pas, alors ?
Non, pas régulièrement.
Mais ça vous est arrivé ?
Oui.
On vous demande de temps en temps ?
Oui, on doit faire une expertise rapidement, et parfois on nous dit, une fois je me souviens, c'était les douanes qui me convoquaient, et j'étais avec deux autres collègues, on s'était pris une semaine, non pas de vacances, mais de travail à fond, chez moi, c'est-à-dire on voulait travailler, ils ont dit, il faut venir, je dis, je suis en congé, donc je viendrai, je reprendrai mon travail, ils ont dit, non, il faut venir, j'ai dit, écoutez, nous ne sommes pas de la même administration.
Enfin, vous voyez. Il y a une négociation, donc.
Et après, voilà, enfin, j'ai essayé, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de négociation. Il a dit, monsieur, vous êtes en vacances, mais nous, en attendant, il y a quelqu'un derrière les barreaux.
Donc, vous y êtes allé.
Voilà. Et j'y suis allé, ils m'ont fait rentrer dans des pièces un peu sécurisées. C'était l'été, il faisait chaud, mais dans ces pièces, il faisait frais, et je trouvais que ça sentait bon. Et je leur ai dit, ouais, ça sent bon. Et ils se sont moqués de moi, parce que je n'avais pas reconnu les odeurs de ces plantes qu'ils avaient. Bref, on m'a monté des objets. Et alors là, c'est amusant, parce qu'il y avait des fossiles dedans. Ils me disent, est-ce que c'est interdit ou pas ? Alors je dis, ça dépend. Je ne dis pas lequel. Ça dépend, parce que si ça vient, on en trouve dans les Cévennes, si ça vient de France, ce n'est pas interdit. Si ça vient d'Italie, c'est interdit. Si ça vient du Maroc, c'est interdit, mais c'est toléré. Donc d'où ça vient ? Il dit, je ne vais pas vous le dire. Et enfin, il y a eu un certain nombre d'échanges comme ça, c'est très rigolo. Et parce que de même la suite, il m'a dit ça ne vous regarde pas.
Oui. Vous voyez, c'est... Donc il fallait apporter des éléments sans trop poser de questions en fait. C'est-à-dire qu'il fallait juste répondre.
Oui, sauf que là, ma réponse devait dépendre de l'origine.
Oui.
Et ils m'ont dit non, ça ne vous regarde pas. Donc j'ai dit bah, écoutez, si c'est les Cévennes, si ça vient de France, parce que ça se trouve dans les Cévennes, pas de problème. Si ça vient d'Italie, c'est interdit. Si ça vient du Maroc.
Bon, et alors donc, vous avez collaboré avec eux ou pas finalement?
Ah ben, je leur ai dit ce qu'il en était.
D'accord.
Mais j'ai demandé après le résultat.
Très bien. Donc ça c'était votre première collaboration?
Oui, et ils m'ont dit ça ne vous regarde pas.
D'accord.
C'est frustrant, hein?
Oui, j'imagine.
Mais c'est logique.
Vous avez été amené retravailler après avec des policiers?
Oui, pour les douanes, pour des marbres.
Pour quel type d'histoire? Racontez-nous quand même, c'est
alors intéressant. Alors, c'était un gros bateau qui venait avec du marbre de Chine. Il me demandait, il dit, on est un peu suspicieux sur marbre, est-ce que c'est vraiment du marbre? Donc, on a regardé le marbre, la pétrographie, c'est-à-dire quels sont les constituants du caillou, quels sont les minéraux présents dans le caillou. C'était du marbre au sens géologique du terme, donc du carbonate de calcium métamorphisé, tout était bien. Les cristaux étaient parfaitement jointifs, donc ça c'est la texture. Donc c'est un marbre, mais quand on le prenait un petit morceau, c'était dur. Mais si on le bougeait un peu, ça partait en poudre, un peu comme vous savez, c'est parfois du sucre cristallisé.
Okay.
Il est dur, et puis si on le touche un peu, ça part en morceaux. Donc j'ai fait mon rapport, j'ai dit, ben voilà, c'est pétrographiquement c'est du marbre, mais du point de vue de la résistance physique, moi, je ne sais pas répondre. C'est du marbre.
Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez prouvé que ce n'était pas du marbre chinois qui avait...
Je leur ai simplement dit, c'est physiquement, chimiquement, c'est du marbre, mais du point de vue résistance, je suis surpris.
D'accord. Et vous ne connaissez pas la suite de l'affaire, en fait?
Non.
Ah oui,
même
donc c'est
ils m'ont dit, ça ne vous regarde pas.
Ah oui, c'est très frustrant. Que...
Oui,
il faut être de bonne composition. Bon, ça ne vous a pas dégoûté à tout jamais, puisque vous avez fait un livre, quand même, hein, sur la question, quand même, pour valoriser les sciences.
Oui, c'est peut-être pour compenser.
Géologiques, peut-être, certainement. En tout cas, ce que vous nous racontez aussi, c'est que dans la criminalistique, tous les champs scientifiques sont mis à contribution et que, bah, aujourd'hui, l'ADN, ce n'est pas l'indice absolu qui résout tous les problèmes.
Hein. Non, c'est l'un des indices, mais les sciences, toutes les sciences sont utilisées par, pas seulement en criminalistique, mais toutes les sciences sont utilisées par toutes les autres sciences.
Ouais.
Et j'ai rencontré l'autre jour quelqu'un avec qui on discutait de ça. Son enfant avait fait un stage dans un laboratoire de recherche au muséum. Il avait dit, c'est fantastique, tout le monde collabore. Même s'ils ont des spécialités, ils discutent entre eux. Ben oui, parce que la science, c'est la science. C'est comme l'environnement, c'est pas la biologie et, je sais pas, la botanique et la géologie. C'est la nature.
Et au service de la police judiciaire, il vaut mieux s'adresser au maximum de disciplines si on veut aboutir à...
Voilà, parce que ça permet de restreindre les champs d'investigation.
Ouais. On va y revenir dans un instant et puis on aura pas mal d'exemples à donner à nos camarades auditeurs et auditrices de La Terre au Carré. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr également avec vos questions pour notre invité Patrick de Wever.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Grâce à son département de criminalistique, le CARM est capable de fournir des analyses très pointues sur tous les aspects techniques du crime à partir d'une idée simple, exploiter l'infiniment petit. Un seul grain de sable peut confondre un coupable, à condition de porter extrêmement de soin à l'opération de prélèvement. Et c'est là où le bât blesse. En France, gendarmes et policiers n'ont pas souvent le réflexe scientifique. Ils ont pourtant à portée de main les pionniers de la criminalistique moderne.
Voilà, c'est un sujet de France 3 Aquitaine en 1987. Patrick de Wever, vous qui publiez avec Richard Marlet ce livre « La géologie au service de l'enquête » aux éditions Belin. Alors c'est vrai qu'on est en 87, donc les choses ont dû changer parce que ça pose la question là dans cet extrait de la formation scientifique des policiers eux-mêmes. Et j'imagine que depuis, ils ont dû quand même beaucoup intégrer toutes les techniques qui sont à leur disposition, non?
Oui, parce que justement, il a commencé à y avoir quelques exemples d'applications fructueuses, auquel cas, ben, ils s'y sont forcément intéressés. Quand je préparais ce travail, j'étais en contact avec une dame policière, je crois qu'elle était capitaine de gendarmerie, mais je ne garantis plus, et qui fait une thèse à l'école des mines de Paris, sur les sols, parce qu'ils sont en train de faire une base de données sur les sols. Donc vraiment, maintenant, il y a des liens, comme avec toutes les disciplines.
Ouais. Enfin, en même temps, les policiers ne peuvent pas être spécialistes de tout, parce qu'il y a tellement de disciplines scientifiques, c'est la raison pour laquelle ils font appel précisément à des gens comme vous. Hein. Mmh. Mais alors, du coup, quand il y a une enquête qui est ordonnée, comment ça se passe pour savoir à quelle discipline, justement, il faut s'adresser? Pourquoi est-ce qu'on va voir un géologue particulièrement pour telle ou telle enquête, ou une autre discipline? Comment ça se passe?
Alors, ils ont eux-mêmes déjà, ils commencent à se spécialiser suivant les sujets à traiter. Et puis, ils ont leur petit spécialiste, ils ont leur spécialiste sur des petits sujets. Mmh. Et puis, mais le spécialiste sur un petit sujet connaît d'autres spécialistes sur le même type de sujet. Donc, c'est un peu par diffusion, comme ça, qu'ils peuvent chercher. Et c'est quand ils ne trouvent pas qu'ils font appel à des non-policiers comme nous. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils nous disent... Ça ne vous regarde pas.
Et un seul grain de sable, on l'entendait dans cet extrait, peut confondre un coupable. Un seul grain de sable.
Oui.
Et le sable, c'est justement, ça fait partie des matériaux qui sont dans votre palette, Patrick de Wever.
Oui, mais c'est de la poussière. Et la poussière, comme un caillou, pour monsieur tout le monde, un caillou, c'est un caillou.
Et la poussière, encore pire, parce que pour le coup...
Et voilà, parce qu'on ne la voit pas. Or, la poussière, parfois, on la regarde, et puis, par exemple, il y a une cargaison de parfums qui a quitté la France pour les États-Unis, dans les années 1980, je crois. Et arrivé là-bas, il y avait le poids, mais ce n'était plus du parfum, c'était du sable.
Ouais.
Donc, ils ont cherché à savoir où avait été fait le changement, pour deux raisons. D'abord... essayer d'identifier les coupables, et puis aussi savoir si ça relevait de l'administration française ou de l'administration américaine. Mmh. Parce que rien que ça, pour les assurances, c'est complètement
bien
différent.
Sûr.
Donc ils ont pris ce sable, et puis ils l'ont envoyé à divers spécialistes. Et il y en a un, c'était chez nous, au labo, qui a dit, moi je connais ce type de sable, on le trouve en Floride, on ne le trouve pas en Europe. Et donc, ils ont dit aux Français, ça ne vous regarde plus, ça regarde.
Donc, ça veut dire que c'est en Floride qu'on avait changé la cargaison.
Le changement, voilà.
Parfum contre du sable.
Voilà.
Résolution de l'enquête.
Voilà. De même que quelques années auparavant, des cailloux étaient partis d'Afrique du Sud pour les diamantaires d'Anvers. On appelle ça les cailloux aussi.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Puis arrivé à Anvers, c'était vraiment des cailloux de chez cailloux. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf qu'ils se sont adressés à des géologues, et les géologues, ils ont dit, un caillou, c'est pas un caillou. Un caillou, c'est un calcaire, ou c'est ceci, ou c'est cela. Et puis, ils nous racontent une histoire. Donc, ils ont regardé quel type de caillou c'était. C'était du calcaire. Donc, ils ont identifié les deux endroits où l'avion avait pu se poser. Et ils ont, parmi les endroits où l'avion s'était posé, ils ont identifié deux où il y avait ce type de calcaire.
Ouais.
Ensuite, ils ont regardé sur ce calcaire les pollens. Parce que ces cailloux avaient été à l'air. Donc, ils avaient récupéré du pollen des plantes alentour. Et là, ça a limité l'un des deux endroits. Ils ont circonscrit le problème et ils ont trouvé
la
solution.
Ils ont trouvé la solution et le bon endroit. Donc, il faut toujours se méfier du géologue qui est autour de soi, Patrick de Wever. Parce que largement aider les enquêteurs.
Oui, mais vous savez, c'est pas miraculeux. Moi, quand je vois un livre de poésie chinoise... C'est un bloc de cellulose qui peut être utile pour bloquer un meuble, c'est tout, parce que ça ne me dit rien, parce que je ne sais pas lire le chinois.
Oui.
Si on ne sait pas lire le caillou, un caillou, c'est un caillou. Mais quand on apprend à lire un caillou, ça nous raconte des histoires microscopiques, ou des histoires, en plus, il y a des millions d'années. Bref, ça nous raconte des histoires tout à fait fantastiques. Il y a quelques années, j'étais à un salon du livre, ils avaient une session sur la science-fiction. Comme j'intervenais pour deux conférences, ils m'ont dit, il faudra venir à la table ronde. J'ai dit, non, la science-fiction, c'est pas mon truc. Et après, ils ont insisté, mais moi j'ai insisté aussi en disant, non, ça m'intéresse pas du tout. Ils ont dit, c'est ça qui nous intéresse, pourquoi ça vous intéresse pas du tout? Bon, donc j'ai finalement accepté. Et en attendant, je me suis dit, mais pourquoi ça m'intéresse pas? Je sais pas si c'est la raison, mais j'ai une explication qui me semble tenir la route, c'est que je n'ai pas besoin de la science-fiction parce que je la vis dans mon travail.
Ah, vous avez cette impression-là, en fait.
Mais oui, je regarde mes petits organismes là au microscope, c'est tout petit, c'est très beau, et je me dis, avec ça, ça s'est déposé au milieu de l'océan Tétis, qui n'existe plus, et sur des basaltes, donc j'imagine le volcanisme au fond de la mer, les sédiments se sont déposés dessus, dedans il y avait ces petits squelettes qui me restent, qu'on retrouve maintenant en haut du mont Genèvre. Mais si ça, c'est pas de la science-fiction. D'autres qui font des travaux sur des organismes plus grands trouvent des os avec ça, ils disent, mais ça appartient à un bestiau qui vivait ici il y a 150 millions d'années dans ce qui était à l'époque le Jura. Il fait 30 mètres de long, il faisait 50 tonnes. Ça, c'est de la science-fiction. Enfin, bref, je ne sais pas si c'est l'explication, mais c'est...
Est-ce que, justement, vous parlez d'archéologie, là, parce qu'il y a plein d'exemples, paléontologie en tout cas, ou archéologie, c'est très différent de la géologie, vous êtes assez complémentaires sur ces disciplines, là pas, aussi, qui peuvent aider dans le cadre d'enquête.
C'est parfaitement complémentaire, parce que l'archéologie, ce sont des choses qui relèvent plutôt de l'humanité, mais les approches sont vraiment tout à fait identiques. Et certaines des techniques que j'ai citées dans le livre sont surtout utilisées par les archéologues.
Ouais. Alors les traces, hein, c'est vraiment au cœur des enquêtes. Toutes traces, évidemment, sont intéressantes. Il y a par exemple l'histoire de cet enfant kidnappé dans les années 60, c'est en 1967. Kenneth Young, il a 11 ans lorsqu'il est kidnappé. Il est fils d'un riche financier de Beverly Hills. Il me demande de rançon, $250,000 à l'époque. Et alors, comment on va confondre le kidnappeur ?
Ben, les kidnappeurs ont été assez astucieux. Ils ont volé un véhicule, ouais. Comme ça, il n'y avait pas leur identité. Ils l'ont lavé avant, ils l'ont lavé après. Donc, tout était propre.
Mais merci pour les enquêteurs, d'ailleurs. Ça les a bien aidés.
Mais, ils avaient fait attention à tout, sauf qu'il y a une toute petite trace à l'arrière, sur le tapis, ils n'avaient pas vu qu'il y avait une toute petite, à peine visible, c'est une trace de semelle, ça a été prélevé avec des petites poussières, et puis cette petite poussière analysée, ont montré qu'il s'agissait de squelettes de diatomées, ce sont des algues nanoscopiques, microscopiques. Et ils ont regardé quel type de diatomées, ça s'appelle des diatomées, quel type d'organes c'était, et avec ça, ils ont permis de confondre les...
Donc ces diatomées s'étaient planquées sous les chaussures.
Voilà, elle s'était accrochée aux chaussures. Dans le tapis, il y en avait quelques-unes qui s'étaient accrochées au poil du tapis, et ils ont retrouvé ces diatomées.
Ça paraît tellement simple de résoudre toutes les énigmes grâce à vos travaux, Patrick de Wever.
Oui,
c'est les belles histoires, ça, quand
oui,
même.
Oui, mais Mathieu, c'est comme quand on était en troisième ou en première. Les problèmes de maths, quand on avait la solution, ils étaient toujours faciles.
C'est ça. Donc il faut quand même du temps avant d'y arriver parfois, ou un esprit de logique, en tout cas, qu'on n'a pas forcément, évidemment, quand on est en face d'un problème. Alors, il n'y a pas que les enquêtes, d'ailleurs, au service de la police. Dans votre livre, on voit aussi comment les microfossiles, par exemple, peuvent servir à localiser des couches géologiques spécifiques, comme ça a été le cas pour le percement du tunnel sous la Manche, par exemple. Là aussi, on fait appel, évidemment, à des géologues dans ces cas-là, quand on veut savoir le bon endroit où aller.
Voilà. Parce que pour percer le tunnel, il fallait suivre une certaine couche qui soit suffisamment perméable, suffisamment imperméable pour ne pas laisser passer l'eau, parce que ça la ficherait mal pour un tunnel, suffisamment dur pour résister, mais pas trop dur pour pouvoir être percé. Et ils s'étaient aperçus que, alors ils ont cherché des méthodes physiques, chimiques, et ils ont tout regardé, donc paléontologiques, et ils ont vu qu'il y avait une couche qui contenait un type de microfossile, un foraminifère, et c'était l'index, et donc c'était ce microfossile qui a servi de fil d'Ariane pour suivre la couche. C'est donc, vous voyez, les tunneliers, c'était quand même, au niveau moderne, c'est de la technologie de pointe, et pour le faire fonctionner de manière opérationnelle, ils ont suivi un tout petit fossile, et donc ils avaient recruté quelqu'un pour, à longueur de journée, il avait des petits copeaux, et devait dire... On est encore dans la bonne couche, on n'est plus dans la bonne couche.
Donc hommage encore au géologue Patrick de Wever, c'est grâce à eux qu'on peut traverser la Manche. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, ne partez pas tout de suite. On a encore des exemples à aborder et des questions auxquelles répondre. Vous nous rejoignez sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
450 000 euros, c'est le montant hors norme dépensé pour l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard en décembre 2020 dans le Tarn. Malgré des investigations d'une rare intensité, aucun corps, aucune scène de crime, aucun aveu. Comment expliquer donc ce montant de 450 000 euros qui n'inclut pas les salaires des magistrats et des enquêteurs ?
Ce sont bien évidemment les expertises ADN, les recherches traces de sang, l'utilisation de moyens modernes, hein, comme les sonars, comme les robots pour détecter éventuellement si la terre a été remuée ou pas, des expertises toxicologique également, qui demande beaucoup de précision et donc beaucoup d'argent.
Il faut savoir que la loi ne prévoit pas de plafond de dépenses pour une enquête criminelle.
Et c'est une vidéo de la Dépêche du Midi. On entendait le journaliste Frédéric Abella à l'instant. Patrick de Wever, vous êtes avec nous. La géologie au service de l'enquête, c'est aux éditions Belin avec la collaboration de Richard Marlet. C'est vrai que les coûts explosent aujourd'hui parce qu'on fait appel à de nouvelles technologies qui sont de plus en plus chères. On essaye justement d'étendre dans certaines enquêtes, en tout cas, le maximum de disciplines possibles.
Oui, comme la science en général, on utilise des matériels et des techniques de plus en plus sophistiqués, dit-on, et donc qui nécessitent des matériaux, des matériels qui coûtent très cher. Mmh. Et dans le cas de Sophie Jubilard...
Delphine Jubilard,
outre ce qui a été signalé avec la chimie, ils ont utilisé le géoradar, oui. Hein, le radar qui pénètre le sol. Ils ont utilisé aussi le lidar, c'est-à-dire que c'est...
On utilise par voie aérienne, c'est ça on
peut... Voilà, c'est par voie aérienne, c'est un laser... qui permet de s'affranchir de la végétation.
Ouais, d'aller au-delà du couvert végétal. Donc,
voilà, hein, parce que le radar habituel, il s'arrête à la végétation, parce que ça fait ça reflète à ce niveau-là, donc il ne voit pas en dessous. Le lidar est suffisamment précis, mais c'est le même qu'un radar, mais laser, avec des ondes laser. Donc ça arrive à passer entre les feuilles, et on a donc le sol. Et ils espéraient ainsi repérer... peut-être des petits tas ou enfin, des variations dans la topographie qui permettraient d'identifier une tombe. Et de même que le radar permet d'identifier, outre la forme, mais surtout la consistance. Une tombe récente, la terre est moins dense que la terre, une terre qui est là depuis très longtemps.
Alors, en l'occurrence, là, le corps de Delphine Jubilard n'a toujours pas été retrouvé. Cette infirmière disparue en décembre 2020. Donc c'est un petit peu le contre-exemple d'ailleurs, hein, de tous les moyens qui peuvent être déployés. Mais ça ne fonctionne pas toujours, évidemment.
Voilà, justement, c'était l'intérêt de signaler. On a signalé 2-3 exemples comme ça pour montrer que... Mais parfois, on n'a pas toujours le résultat. Mais la science, c'est ça. On utilise des techniques... Mais ça ne veut pas dire que ça donne un résultat positif toujours. Ouais. Et c'est pourquoi, souvent, il est nécessaire de multiplier les techniques d'approche.
D'où les coûts aussi qui peuvent augmenter drastiquement dans ces cas-là. Les géologues, évidemment, peuvent renseigner aussi les enquêteurs sur les endroits où aller creuser ou pas, hein, selon la nature des sols. Voilà. Patrick de Wever, hein, c'est ça aussi l'intérêt, c'est de faire gagner du temps et de réduire aussi les surfaces d'enquête.
Hein. Voilà, c'est ça, c'est circonscrire un peu les hypothèses. Ouais. Et essayer d'éliminer des hypothèses.
Les cartes géologiques qui permettent précisément de localiser des zones contenant les mêmes caractéristiques que la trace trouvée sur la scène où a eu lieu l'enquête, ça c'est absolument fondamental aussi donc. Hein.
Oui, alors là c'est, on parlait justement de techniques très, très poussées, là c'est de la compétence, ça ne nécessite pas forcément du matériel. Mm-hmm. Le géologue se promène avec une loupe, un peu forte, mais une loupe, un marteau, et voilà, et avec cela, il peut dessiner une carte géologique. Et un exemple que nous citons, c'est qu'il y a eu une explosion en Grande-Bretagne, et c'est dans un lotissement, il y avait deux maisons qui avaient explosé, et ils pensaient que c'était autour, l'herbe était un peu roussie aussi, donc ils se disaient c'est des gaz qui sortent du sol, et il y a eu des mines. Donc ils se sont dit ça doit être... Du gaz qui a suivi certaines veines de houille, et le méthane, ce qu'on appelle généralement le grisou, est remonté à griller, et un jour il y en avait tellement que ça a explosé. Donc c'était ceux qui avaient fait exploiter la houille qui étaient responsables. Mais, regardant la cartographie, ils ont dit, attention, il se peut que ce soit autre chose, parce que sur ces mines souterraines, il y avait aussi eu un trou qui avait été pour exploiter la terre qui était au-dessus, et la carrière avait été abandonnée, ça avait été comblé avec des déchets ménagers, et l'ensemble a été, bien sûr, il faut qu'il y ait plus de vapeur qui remonte, etc. Donc au-dessus on met de la terre, au-dessus on met un imperméabilisant, en terre, hein, de l'argile, et puis en fait ils ont regardé, et c'était ces ordures ménagères qui avait produit ce gaz, et donc le responsable n'était pas la mine, l'ancienne mine, mais c'était ceux qui avaient comblé la carrière.
Ouais. Donc c'est vous, en tant que scientifique, vous avez l'impression de faire des enquêtes policières, finalement, aussi, même sans forcément répondre à la demande des policiers, parce qu'il y a... Mais
la science est une enquête policière. Et c'est la même démarche.
Sur du temps très très long, parce que là, vous nous parliez...
Voilà, nous on parle de millions d'années.
Ouais.
Mais c'est aussi... C'est aussi l'approche parfois de la science. Vous voyez, c'est, quand on parle des cold cases, ce sont des affaires qui sont reprises par la suite parce qu'il y a des nouvelles techniques, etc.
Ouais.
Parce que le temps compte. Dans la police, il faut que plus le temps est court, mieux c'est, plus on a de chances de trouver des informations. Dans la géologie, quand on veut comprendre, il faut surtout faire l'inverse, prendre en compte le temps long.
Ouais.
Une roche, c'est dur. Tout le monde le sait, une roche, c'est dur comme du caillou. Et pourtant, une roche, ça bouge, c'est plastique. On parle de la dureté du marbre ou du granit, et pourtant il faut plutôt dire que c'est visqueux. Alors c'est visqueux, quand même, vous allez me dire, plier un granit. Ben si, ça se plie un granit, c'est facile.
Vous avez plié du granit vous, au cours de votre carrière?
Mais non, parce que non. Je suis qu'un humain.
D'accord.
Donc ma temporalité,
c'est la nature qui plie toute seule.
Ne le permet pas. Ouais. L'exemple que je prends souvent, c'est que si vous prenez, je vais prendre une bougie. Je vais dire, voilà, on va casser la bougie, on va plier la bougie. Je la plie un petit peu, puis d'un coup, elle casse. Mm-hmm. Et donc, je vais dire, Mathieu, voyez, une bougie ne plie pas, elle casse. Pourtant, la bougie, si on la met sur le bord de cette table dans ce studio qui fait, oh, il fait bien chaud,
oui, c'est vrai, oui.
Au bout de 2 mois, vous allez voir la bougie sur le bord de la table qui va pendouiller.
Donc, il faut laisser du temps.
Voilà, c'est une illustration. Les roches sont visqueuses, donc la glace, c'est une roche. La glace est une roche. C'est dur, essayer de casser un glaçon, vous n'y arrivez pas. Et pourtant, les glaciers coulent. Vous voyez, là, ça illustre bien ce qu'est la roche.
Justement, puisque vous parlez du temps et de l'histoire, Patrick de Wever, le livre se termine sur la dernière affaire, puisqu'il y en a 94 dans cet ouvrage, sur la pyramide de Khéops. Alors, ce n'est pas une enquête policière autour de la pyramide de Khéops. Et pourquoi vous avez voulu l'inclure justement dans cet ouvrage? Qu'est-ce que vous allez nous raconter là-dessus?
Mais c'est une illustration d'une technique qui est assez récente. Je n'ai pas trouvé d'application en géologie. Mais on utilise la muographie. Mmh. Alors, ce n'est pas un truc un peu bovin. Il y a des neutrinos, ce sont des particules. Ne me posez pas trop de questions sur le particule, je ne suis pas physicien des particules. Mais dans les neutrinos, il y a une catégorie qui s'appelle les muons.
Oui.
Et les muons, ben, comme les neutrinos, ça nous traverse.
Traverse.
On n'y est pas sensible, mais néanmoins, ça nous traverse. Mais on n'y est pas sensible, mais néanmoins, ça a un effet sur les particules qui nous traversent ou pas. Plus nous sommes denses, moins elles nous traversent. Et donc, on a appliqué ce principe sur les pyramides. Mais là encore, c'est pas une expérience, c'est pas la vitesse d'un appareil photo. Ça, l'expérience a duré à peu près 1 an, je crois. Pendant 1 an, ils enregistrent des données, mais après ils analysent, et c'est ainsi qu'ils ont trouvé. On connaissait une ouverture, et maintenant on a réussi à trouver le circuit de ce canal qui est dans la pyramide de Khéops.
Et donc, plus de 4000 ans après sa construction, bien largement. Hein.
Oui, parce que la pyramide, c'est du solide. Dedans, il y a un trou. Un trou, c'est un vide. Un vide, c'est un vide. Et donc, ça réagit différemment au muon.
C'est ça. Et ça, c'est encore, évidemment, la porte de nouvelles technologies qui font aussi avancer l'histoire. On va répondre aux questions qui sont arrivées pour vous, Patrick de Wever. Et c'est Paul qui vous a écrit ce petit mot sur la messagerie de l'émission. Est-ce que chaque grain de sable, vous demande-t-il, a une identité différente selon d'où qu'il vienne, monsieur le géologue ?
J'ai du mal à répondre. Mais un ensemble de grains de sable porte une signature. Par exemple, au large de l'Arabie, ils ont construit, vous savez, ce palmier, cet hôtel palmier,
oui.
Magnifique.
Oui, enfin...
Non, mais je veux dire, magnifique réalisation, voilà, techniquement.
Catastrophe écologique, mais bon,
voilà.
Ok.
Eh bien justement, ben oui, ils ont mis du sable pour construire ça. Normal, on va me dire, il y a plein de sable derrière. Eh bien non, le sable, il ne vient pas de là. Le sable, il vient d'Australie. Pourquoi ils n'ont pas pris le sable de là? Pas parce que le sable dans le désert n'est pas le même que celui qui vient d'Australie. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà bricolé, moi je me souviens quand j'étais jeune, on dit, gamin, si tu veux construire, tu prends du sable de Loire. Pas du sable de chez... J'étais dans le nord de la France. Pas du sable de Ardelot, de sable de Loire. Alors j'ai dit pourquoi? Ça accroche mieux. J'ai suivi, j'ai obéi. Mais après, j'ai compris. Un sable qui vient d'une montagne, d'un granit, les grains sont anguleux, donc ça accroche.
Donc vous confirmez la question de Paul,
oui,
c'est
oui.
Qu'il y a une identité, peut-être chaque grain de
pas
sable.
Chaque, voilà.
Mais en tout cas, on peut localiser facilement des natures.
La preuve, c'est qu'on peut dire que, à Paris, non, mais j'habite la région des Tempes, mais on peut dire que là coulait la Loire.
Martine vous demande, est-ce que toutes les caractéristiques minérales sont recensées quelque part? Est-ce que tous les géologues ou policiers y ont accès, Patrick de Wever?
Oui, c'est international,
donc,
on connaît...
Il y a quoi? Il y a une nomenclature, en fait?
Ah ben, il y a plus... C'est enregistré, il faut que ce soit validé par une commission internationale. On connaît actuellement plus de 5000 minéraux différents. Hmm.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans la Terre au Carré. Je voudrais signaler un rendez-vous avec votre co-auteur Richard Marlet. Ce sera bientôt en Bretagne, c'est ça? Il y a un stage qui est organisé justement pour ceux qui s'intéressent.
Oui, c'est pas un stage, c'est une rencontre avec la police scientifique, gendarmerie, police...
Et géologue donc en l'occurrence.
Et géologue. Et c'est aussi ouvert aux scolaires, parce que justement il faut montrer que les sciences, ça peut ouvrir sur plein de domaines différents.
Et pour les dates, Patrick de Wever, vous m'avez dit
22-25 mai
prochain. Merci beaucoup d'être passé par La Terre au Carré. La géologie au service de l'enquête, c'est publié aux éditions Belin avec donc Richard Marlet. Merci beaucoup à vous et bon retour.
Merci.